Alors après ces très beaux exposés de Yann sur ces réseaux de neurones qui ont des performances vraiment spectaculaires, ce que je voudrais essayer de donner aujourd'hui, c'est un éclairage un peu plus mathématique et notamment montrer à quel point on ne comprend pas grand-chose sur toutes ces structures. On comprend un peu, mais pas beaucoup de choses. Et pour un peu mieux l'insérer dans la science, disons, plus classique, je ne vais pas commencer du point de vue de l'intelligence artificielle, mais plutôt des grandes problématiques scientifiques devant lesquelles beaucoup de scientifiques se retrouvent, et notamment en physique, qui est d'une façon générale d'analyser des systèmes qui sont extraordinairement complexes, avec un très très grand nombre de degrés de liberté. Alors, c'est par exemple le cas en physique, si on veut analyser un fluide turbulent, ça c'est de la météorologie, donc c'est de la turbulence atmosphérique. Bon, la physique statistique va consister à essayer d'analyser le système dans son ensemble pour voir quelles sont les variables qui sont importantes, est-ce qu'il y a des macro-variables qui permettent de décrire le système. Eh bien, ce genre d'études fonctionne assez bien quand le système est désordonné, par exemple un gaz, mais dès que vous avez affaire à un système où il y a de la structure, comme par exemple dans la turbulence où on voit apparaître ces filaments, ces vortex, etc., on a énormément de mal à comprendre quelles sont les variables importantes dans un système comme ça. Et le problème de la turbulence est un problème qui est totalement ouvert actuellement, malgré les efforts depuis les années 45, suite aux travaux de Kolmogorov. Alors, ce genre de problème, on le retrouve dans énormément de domaines. En physico-chimie, par exemple, vous avez des matériaux avec un nombre absolument énorme d'électrons. Alors là, je me suis intéressé à l'aspirine, parce que comme beaucoup de gens, j'ai la grippe actuellement. Mais en dehors de l'aspirine, vous prenez les graphènes, vous prenez des diamants, ils ont des propriétés qui émergent de quoi ? De l'interaction de tous ces électrons. Et comprendre comment ce que l'interaction de ces milliards de variables donne lieu à ces propriétés extraordinaires, ça fait partie des grands enjeux de la physique et de la chimie. Si vous prenez d'autres domaines, comme par exemple les sciences sociales, bien, Yann venant de Facebook, je suis permis de prendre ce genre d'exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un système va émerger et avoir des propriétés d'organisation telles qu'on les voit dans des systèmes sociaux? Eh bien, encore une fois, c'est l'agrégation d'énormément de variables qui vont gouverner ces interactions. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de variables. Et l'enjeu scientifique, c'est de comprendre est-ce qu'on peut agréger ces variables et construire des modèles de beaucoup plus basse dimension qui, cependant, permettent d'expliquer les propriétés du système sous-jacent. Et évidemment, quelles sont les mathématiques qui permettent de faire ce genre de choses? Alors, quel est le lien avec l'intelligence artificielle et tout ce qui a été présenté par Yann? Le lien, c'est que dans tous ces problèmes, on a affaire à un système de très grande dimension. C'est-à-dire l'état du système va être décrit par un vecteur qui a énormément de coordonnées. D, ici, c'est le nombre de variables. Alors, si je me replace à nouveau dans le cas, par exemple, de la physique, ce qu'on va vouloir essayer de décrire, par exemple, c'est l'énergie du système. Est-ce qu'à partir de X, vous pouvez apprendre l'énergie du système? Alors, X, c'est quoi? Bah, par exemple, dans le cas de l'astronomie, X, ça va être la répartition des masses dans l'univers ou dans une galaxie. Si vous passez à l'infiniment petit, X, ça va vous donner, par exemple, la distribution de la position des atomes et des charges qui, à partir de là, vous permettra de calculer l'énergie de votre molécule. Alors, pourquoi l'énergie, c'est important? Parce que si vous dérivez l'énergie, vous avez accès aux forces, vous avez accès à toutes les propriétés intrinsèques. Et ici, on ne va pas se poser la question en essayant d'avoir les propriétés, les lois fondamentales de la physique, mais d'essayer de le faire à partir d'exemples. À partir d'exemples, c'est-à-dire on a un certain nombre d'exemples de systèmes, on a un certain nombre, par exemple, d'énergie, et est-ce qu'à partir de ces exemples, on peut automatiquement apprendre l'énergie sans jamais avoir étudié de physique? Ce problème est fondamentalement le même type de problème que ceux qui ont été présentés par Yann. Et alors, ce qui est intéressant quand on fait ce détour par la physique, c'est qu'on sait bien qu'il y a une chose qui est très importante quand on étudie un système qui est aussi compliqué, c'est les propriétés de symétrie, les propriétés de régularité de ce système. Et donc, très probablement, on va voir réapparaître ça dans les cas, par exemple, de traitement d'image. Alors, si on se place sur le cas de traitement d'image, X, qu'est-ce que c'est? Ça va être une image. Donc, les coordonnées de X, ici X1, XD, c'est les différentes valeurs des différents pixels de l'image. Et une image typiquement prise avec votre appareil photo, c'est de l'ordre de 1 million de pixels. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un vecteur en dimension 1 million. Donc, très très grandes dimensions. Et là, qu'est-ce qu'on va vouloir apprendre? Non pas l'énergie de l'image, mais par exemple, f de x, dans le cas d'un problème de classification, on voudrait apprendre quel type d'image, donc le label. Par exemple, ici, vous avez des images d'encre, ici, des arbres de Joshua, ça, ce sont des castors, des fleurs de lotus, des fleurs de lily, etc. Donc, essentiellement, formellement, le même genre de problème, un x, on veut apprendre un f de x, et on se rend compte que le problème est extraordinairement difficile, parce que si vous prenez ces images, le f de x, c'est la même chose, ce sont des encres, et il y a une variabilité absolument considérable des différents types d'images d'encre, ou des images de castors, etc. Donc, l'enjeu, d'une certaine manière, pour essayer de se rendre compte que toutes ces images sont identiques du point de vue de la fonction f, c'est de trouver des invariants. Qu'est-ce qui est en commun entre toutes ces images? Et ces invariants, donc on pense invariant symétrie, on commence à rejoindre le type d'idée que j'ai mentionné, et ces invariants doivent être suffisamment puissants pour que les invariants du castor, évidemment, ne soient pas les mêmes que ceux de la fleur de lily ou de l'encre. Donc, trouver des invariants qui sont caractéristiques du problème. Alors, pourquoi tous ces problèmes sont extraordinairement difficiles? C'est un phénomène qu'on connaît bien en mathématiques, qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez le problème d'un point de vue naïf, en fait, vous avez des exemples, xi, donc c'est les différents points de votre espace, et puis vous connaissez la valeur de la fonction f de xi, donc par exemple, vous savez que telle image correspond à un castor, telle image va correspondre à une encre, etc. Et maintenant, vous avez une nouvelle image, un nouveau point f, x, et vous voulez calculer la valeur de f. L'idée qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de dire, je vais tout simplement faire une interpolation, c'est-à-dire regarder les voisins, et puis calculer une sorte de moyenne à partir des voisins. Alors ça, ça ne marche jamais en grande dimension. Et pourquoi ça ne marche jamais? Parce qu'il n'y a pas de voisins. Parce que quand on est en très grande dimension, les points sont complètement isolés, un peu comme les étoiles du ciel, et on le voit bien. Si vous prenez deux exemples ici, deux images d'encre, vous regardez la distance, c'est-à-dire vous faites la soustraction entre ces deux images, ce n'est pas du tout zéro, ce n'est pas du tout proche de zéro. Ces images ne sont pas plus proches l'une de l'autre que même cette image et cette image-là. Donc en fait, le problème en grande dimension, c'est qu'il n'y a pas de similarité qui est évidente. Et ça, on le voit immédiatement quand on regarde l'effet de la dimension. Si vous prenez un cube, disons 0,1, en deux dimensions, et vous voulez avoir des points qui sont relativement proches, disons à une distance 1 dixième, combien de points il vous faut? Il vous en faut 10 fois 10, c'est-à-dire 100 points. Si maintenant votre cube, il est en dimension d, combien de points il vous faudra, à une distance 1 dixième qui n'est pas très petite? Il vous en faudra 10 à la puissance d. Et maintenant, si d est égal à 100, ça vous fait 10 à la puissance 100, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. C'est-à-dire qu'en dimension 100, vous allez être incapable d'avoir un recouvrement assez précis de votre espace. Or, on ne va pas être en dimension 100, mais en dimension 1 million. Et on ne va pas avoir autant d'exemples que le nombre d'atomes de l'univers. Autrement dit, les quelques exemples qu'on a, ils sont encore une fois complètement isolés dans l'espace. On a très très peu d'exemples relativement à la taille absolument énorme de l'espace devant lequel on se retrouve. Donc, d'une certaine manière, une des manières de penser ce genre de problème, c'est de se dire, est-ce qu'on peut réduire la dimensionnalité du problème sans pour autant affecter notre capacité à apprendre? Ce qu'on sait, c'est que si le problème est trop compliqué, on ne pourra jamais apprendre parce qu'on n'a jamais assez d'exemples. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont suffisamment simples pour qu'on puisse réduire la dimensionnalité et apprendre? Alors, un exemple auquel on peut penser, prenez, ça c'est l'exemple où on fait de la réduction de dimensionnalité linéairement, qui est la première idée qui vient à l'esprit. Alors ça, c'est possible si vous avez une fonction, donc ça, c'est les différentes classes qui correspondent aux différentes couleurs. Donc une classe, c'est un ensemble de points pour lesquels la fonction est constante. Maintenant, imaginez que vos classes, elles aient une structure linéaire, bien droite, comme ceci. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On se rend compte que l'élévation le long de ces fibres ne vous donne aucune information puisque vous restez dans la même classe. Donc on peut tuer cette élévation, et comment est-ce qu'on la tue? En faisant simplement une projection linéaire. Hop, on met tout dans un plan. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué une variable qui était en fait totalement inutile pour savoir dans quelle classe on était, et maintenant on se retrouve dans un espace de plus basse dimension. Donc ça, a priori, c'est une technique qui est extraordinairement tentante pour essayer de réduire la dimensionnalité du problème. Alors là encore, pourquoi est-ce que la plupart du temps ça ne marche pas? La plupart du temps, ça ne marche pas parce que si vous regardez vos classes, si vous regardez vos lignes de niveau de votre fonction, ne sont pas du tout des espaces linéaires. C'est des choses qui sont horriblement irrégulières. Et donc, si vous faites des projections linéaires, vous allez tout mélanger et vous allez perdre de l'information. Donc, une des idées très naturelles, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait prendre ces espèces de lignes-là et les linéariser, c'est-à-dire transformer notre espace, faire un changement de variable, tel que, tout d'un coup, ces lignes commencent à devenir beaucoup plus régulières, voire même carrément parallèles. Si vous êtes capable de faire ça, alors à ce moment-là, vous pouvez faire votre projection et réduire la dimensionnalité. Cette stratégie qui consiste à essayer de linéariser des problèmes, c'est une stratégie très classique en maths. Si vous prenez, par exemple, des systèmes d'équations différentielles non linéaires, une des premières questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut faire un changement de variable pour linéariser les équations ? Eh bien là, c'est essentiellement la même idée. Maintenant, là, pourquoi ça va être encore beaucoup plus difficile ? C'est parce qu'on est en grande dimension et qu'on a très peu de points, donc on ne voit pas apparaître ces lignes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des points rouges qui appartiennent à la classe 1, des points bleus à la classe 2, etc. Et à partir de ça, il va falloir retrouver la structure. Et ça, c'est un des grands enjeux de ces problèmes en grande dimension. Alors voilà typiquement, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, des points qui sont en apparence complètement désordonnés dans le domaine. Et puis, il y a ces classes de classificateurs qui ont été introduites, dont Yann a parlé, qu'on appelle les classificateurs à noyaux. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, je vais essayer de trouver finalement ce changement de variable miraculeux, tel qu'une fois que j'ai changé mes variables, c'est-à-dire j'ai un nouveau vecteur qui va décrire mes données, eh bien, dans ce nouveau domaine, les choses sont beaucoup plus simples. Les choses sont beaucoup plus simples parce que cette fois-ci, les lignes de niveau, les classes sont quasiment linéarisées. Donc, ce qu'on rêve, c'est de trouver ce changement de variable. Et puis ensuite, ce que font ces classificateurs à noyaux, c'est que très brutalement, ils projettent linéairement, c'est-à-dire carrément sur une droite, comme ceci, perpendiculaire à un hyperplan. Et une fois que vous avez votre projection, hop, vous réduisez votre problème à simplement une dimension. Et ensuite, en fonction de la coordonnée en une dimension, vous allez dire, bah, je suis dans la classe 1 ou je suis dans la classe 2. Donc, algorithmiquement, c'est très simple. Mais évidemment, la difficulté, c'est ce qu'il est possible de trouver cette espèce de changement de variable complètement miraculeux. Et qu'est-ce qu'il vous faut sur F pour que ce soit possible ? Donc ça, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus qui ont été faites dans les années 90 et 2000, et les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était horriblement difficile de construire ces changements de variables. Et puis donc sont arrivés ces réseaux de neurones convolutionnels dont Yann a beaucoup parlé, qui ont une longue histoire, mais que vraiment Yann a ressuscité en montrant leur efficacité sur énormément de problèmes. Et là, on construit ce changement de variable de façon, d'une certaine manière, un peu plus conservatrice, un peu plus progressive. Au lieu de faire ça d'un coup, comment le changement de variable va être construit ? On part de x, et comme Yann l'a expliqué, on va appliquer un simple opérateur linéaire de convolution qu'il a décrit, par exemple une image en faisant une convolution avec un filtre, et puis ensuite, on applique une simple non-linéarité. Par exemple, le rectifier, c'est-à-dire le max entre la valeur ici et zéro. Et ça, c'est considéré comme une espèce de neurone artificiel. Et puis ensuite, on répète. On réapplique un opérateur linéaire tel qu'il l'a décrit, puis une non-linéarité. On cascade ça, et à la fin, on va avoir notre descripteur phi de x. Et sur ce changement de variable, c'est-à-dire ce nouveau tableau de nombres, on va appliquer un simple classificateur linéaire. Et la chose qui est tout à fait spectaculaire, c'est que si vous optimisez tous les opérateurs linéaires de convolution avec le genre de stratégie que Yann a décrit, c'est-à-dire qui va consister à essayer de minimiser l'erreur de classification en ajustant progressivement les poids de ces différents opérateurs, eh bien, on obtient des résultats tout à fait spectaculaires, mais qui vont bien au-delà de ce qu'on imaginait, en tout cas, ce que j'imaginais être possible il y a encore 10 ans, que ce soit pour la classification d'images, pour la reconnaissance de la parole, mais aussi pour le langage naturel, des données biomédicales, etc. Et ce qui est très spectaculaire, c'est qu'on commence à voir ces techniques être capable de résoudre des problèmes de façon quasi générique. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à n'importe quoi, mais ce n'est pas tellement dépendant du type de données. Et donc, évidemment, la question, c'est pourquoi ça marche ? Yann décrit ça comme étant quelque chose de très simple parce qu'il est né dedans, mais quand vous regardez ça de l'extérieur, vous dites, raisonnablement, ça ne doit pas marcher. Et ça marche. La question, c'est pourquoi ? Alors l'intuition qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend dans les couches, on va tuer de la variabilité, on va créer des invariants de plus en plus puissants, d'une certaine manière des invariants hiérarchiques, et comme Yann l'a montré, il y a un phénomène de linéarisation sur des phénomènes très non linéaires qui commence à apparaître au fur et à mesure qu'on descend dans ces couches. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre. Alors pourquoi comprendre ? Yann nous dira, mais après tout, l'approche d'ingénieur d'essai et de test, c'est bien suffisant. Oui, c'est bien suffisant souvent, simplement si vous êtes dans un Boeing 747 qui est gouverné par un deep network, en tout cas moi personnellement, j'aime autant savoir qu'on est sûr qu'il ne va pas se planter. Donc il y a un enjeu, même d'un point de vue d'ingénieur, d'essayer de comprendre et de garantir qu'il ne va pas y avoir de petites erreurs ou de grosses erreurs. Donc ça, c'est un exemple qui est maintenant classique. Voilà des images qui ont été très bien classifiées par le premier réseau en 2012 qui a travaillé sur ImageNet. Voilà une toute petite perturbation de ces images. Voilà les images résultantes. Et maintenant, ces images sont toutes classifiées comme étant des autruches. Et donc, on montre bien, avec ce genre de tout petit exemple, qu'on ne pourra jamais tout tester. Et donc, comme on ne peut jamais tout tester, il faut quand même avoir quelques principes de base qui garantissent que le système est stable. Et donc, c'est aussi pour ça qu'au-delà du pur intérêt intellectuel pour les mathématiques, c'est important de bien comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Alors, ce que je vais essayer, c'est d'organiser les choses autour de quelques questions. Donc, ce qu'on a vu à travers l'exposé de Yann, c'est que ces réseaux, quand appliqués à une image, vont être une cascade d'opérateurs linéaires et non linéaires, qui vont être cascadés. Une des premières questions que Yann a posées, c'est pourquoi une cascade ? Pourquoi est-ce que ça fait du sens, effectivement, d'organiser les choses en cascade plutôt qu'un seul grand réseau plat ? Pourquoi des convolutions qui apparaissent ici ? Quel est le rôle de ces non-linéarités ? Pourquoi les non-linéarités sont tellement fondamentales ? Si on pouvait les enlever, tout ce serait infiniment plus simple. Et puis finalement, on est en train d'apprendre des opérateurs LG ici, quelles sont les propriétés de ces opérateurs LG ? Comment ça se fait qu'ils produisent cette espèce de miracle de linéarisation de ce phénomène très non linéaire ? Alors, pour revenir à ce problème, je vais revenir sur la question de symétrie, qui apparaît comme étant très importante dès qu'on doit traiter des problèmes qui sont très complexes. Donc comme je l'ai dit, si jamais par exemple on a deux classes ou deux lignes de niveau, en fait, tout ce qu'on va connaître, c'est quelques points à travers quelques exemples. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler localement dans l'espace. On ne peut pas travailler localement parce que localement, il y a très peu de points. Il n'y a quasiment personne. Donc, il faut prendre le problème de façon complètement globale. Donc, ça, en maths, c'est un problème qui est bien connu. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce cas-là ? Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver les symétries globales du problème. Alors, c'est quoi une symétrie ? On va essayer de regarder si on peut trouver des opérateurs. Un opérateur G, c'est un opérateur qui va bouger des points, et un opérateur qui va bouger des points tout en préservant la classe. C'est-à-dire, quand je vais de X à GX, eh bien, je reste dans la même classe, je reste dans la même ligne de niveau. Si on fait ça, alors à ce moment-là, la fonction F est invariante par l'action de cet opérateur, on a trouvé une symétrie. Donc, on va essayer de décrire les propriétés du système, et vous verrez le lien avec ces réseaux de neurones, à travers les symétries. Si vous avez une symétrie, un opérateur qui est invariant et vous réappliquez, il va être à nouveau invariant. Donc, on appelle ça une structure de groupe. On voit apparaître une structure de groupe derrière ces problèmes. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a des données. On n'a a priori aucune idée du type de symétrie, quels sont les groupes de symétrie. Donc, soit il va falloir les apprendre, soit vous avez de la chance et vous avez de l'information a priori sur les symétries du problème et vous pouvez essayer d'utiliser cette information pour inférer votre système. Alors, comme je l'expliquais, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver des changements de variables qui vont linéariser le problème. Linéariser le problème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous baladez le long de votre ligne de niveau en bougeant avec un opérateur qui vous préserve, qui fait partie du groupe de symétrie. Donc je bouge, je reste le long de la même ligne de niveau, je vais bouger, mais mon mouvement va être extraordinairement désordonné, c'est-à-dire ces lignes de niveau sont extraordinairement compliquées. Qu'est-ce qu'on aimerait faire ? On aimerait non seulement les trouver, ces symétries, mais les linéariser, c'est-à-dire transformer ces espèces de chemins extraordinairement compliqués en quasiment des droites, ou en tout cas des fonctions qui sont bien régulières. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est aussi de séparer. Cette ligne de niveau, c'est un objet qui est différent de celle-là. Il ne faut surtout pas les collapser quand vous allez faire votre changement de variable. Et si vous faites ça, ensuite, vous pouvez faire des projections et réduire la dimensionnalité. Donc le problème, ça va être est-ce qu'on est capable de découvrir et de linéariser ces symétries. Alors, c'est quoi une symétrie dans le cas de traitement d'image? Comme Yann l'a mentionné, la première symétrie la plus importante, c'est la translation. Si vous prenez un chiffre, par exemple le chiffre 3, vous le translatez, c'est le même chiffre, donc a priori, votre problème est invariant par translation. Un chiffre 5 translaté va rester un chiffre 5. La translation, ce n'est pas quelque chose de très puissant. La translation, ça va être défini par deux variables, le vecteur de translation. Donc, si jamais vous créez un invariant par translation, tout ce que vous faites, c'est vous tuer deux variables. Donc, vous passez d'un espace de dimension 1 million à un espace de dimension 1 million moins 2, vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc, on va essayer de s'intéresser à des symétries qui sont beaucoup plus puissantes. Et notamment, évidemment, ce qui va être très important ici, c'est les déformations. Si vous déformez un petit peu votre 3, vous avez toujours un 3. Un 5, vous le déformez un petit peu, ça reste un 5. Vous le déformez trop, évidemment, ça risque de devenir un 3. Alors, pour voir la puissance des groupes de déformation, vous pouvez faire tout un voyage à travers la peinture italienne simplement par l'action des groupes de diffeomorphie, des groupes de déformation. Et ce qu'on voit bien, c'est que tant que les déformations sont petites, les images, le contenu reste essentiellement le même, et puis au bout d'un moment, les déformations deviennent trop grandes, et à ce moment-là, on change complètement. Donc, un des enjeux ici, ça va être de comprendre comment on linéarise ces déformations. Si je prends un deuxième exemple qui vient plutôt des problèmes proches de la physique statistique, la texture. Là, vous avez une texture qui est identique et différente de celle-là. On aimerait comprendre en quoi est-ce qu'on peut linéariser les variations de ces textures de manière à ce que la discrimination soit facile et comprendre la différence entre ceci et une texture de roche, d'une certaine manière, ça veut dire être capable de commencer à s'attaquer au problème de structure de la turbulence. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable avec des réseaux tels qu'on les a vus? Alors, pourquoi est-ce qu'on est capable d'apprendre dans des situations comme ça? Il y a une chose qui est très importante, c'est le fait que les phénomènes sont souvent relativement locaux et il y a des phénomènes d'interaction multi-échelle. Si vous prenez des particules, a priori, toutes les particules vont interagir avec toutes les particules dans un problème qui est compliqué. Seulement, si vous prenez la particule centrale, vous pouvez réduire le nombre d'interactions en observant que les interactions les plus fortes, c'est d'abord avec les voisins, dans un réseau social avec votre famille, par exemple, un pixel avec les pixels les plus proches, et puis, les interactions avec d'autres particules plus loin, vous pouvez les regrouper. Et donc, regarder une interaction équivalente qui va être un espèce de champ diffus créé par ces particules plus loin et celle-ci encore plus loin. Et le résultat de ça, c'est qu'en apparence, vous aviez un problème très compliqué avec des carrés interactions et vous êtes capable de le réduire avec log d interactions si vous êtes capable d'utiliser la localisation et le changement d'échelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître dans ces réseaux. Alors, en maths, dès qu'on commence à parler de changement d'échelle, de séparation à travers les échelles, eh bien on voit apparaître un outil mathématique qu'on appelle la transformée en ondelette, dont le but est exactement de faire ça et qui a une longue histoire, mais il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, avec beaucoup d'applications physiques, traitement du signal, plutôt dans les années 90 et 2000. Alors, je vais vous introduire l'outil et vous montrer comment ce que naturellement cet outil commence à apparaître dans ces réseaux de convolution. Donc l'idée, c'est que pour séparer les phénomènes à différentes échelles, on va regarder les interactions avec des petites ondelettes. Donc voilà une petite ondelette, c'est comme une petite sinusoïde bien localisée, comme un cosinus et un sinus ici. Et ces petites ondelettes, on va les dilater de manière à regarder les phénomènes à différentes échelles. Et puis, comme on veut regarder éventuellement des phénomènes dans des orientations variables, on va tourner les ondelettes. Donc on a des ondelettes qui sont dilatées et qui sont tournées. Donc voilà la partie réelle, la partie imaginaire de vos ondelettes dans toutes les directions. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des convolutions. Des convolutions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre le signal X et on va les corréler avec ces ondelettes qui vont extraire les détails apparaissant à différentes échelles et dans différentes orientations, indexés par mes paramètres ici. Et éventuellement, à la fin, je vais simplement moyenner mon signal. Donc ça, c'est les techniques de séparation qui permettent d'éclater l'information dans différentes échelles, différentes orientations. Alors, comme Yann l'a précisé, ce qu'on va vouloir essayer de faire, c'est créer des invariants. Et ici, comment est-ce que la variation de position va être codée? Essentiellement par la phase, les oscillations. Donc, si on veut créer un invariant, tout d'un coup, on voit apparaître la nécessité d'introduire une non-linéarité qui peut être le relu ou tout simplement une valeur absolue ici. Alors voilà un exemple, vous avez votre image, vous allez éclater l'information dans différentes directions en envoyant vos petites ondelettes qui vont créer des espèces de contours, vous avez la moyenne que vous rééclatez à l'échelle d'après dans différentes directions, que vous rééclatez, que vous rééclatez. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a éclaté l'information dans des données complètement parcimonieuses, et ça ressemble à une toute première structure en cascade, comme on peut avoir apparaître dans ces réseaux, mais en infiniment plus. OK. Maintenant, mon problème, ça va être d'essayer de créer un invariant par translation. Je ne veux pas que quand mon image bouge, le descripteur change parce que 1,3, ça reste 1,3. Comment est-ce qu'on crée un invariant par translation? Vous avez une courbe, voyons en une dimension. Si vous voulez un opérateur linéaire qui est invariant par translation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement moyenner. Donc si on moyenne un tout petit peu localement, ici, on a une courbe beaucoup plus régulière qui est invariante par des petites translations. Si on veut quelque chose qui est complètement invariant par translation, eh bien on moyenne complètement, on a une constante, et ça, c'est gagné, c'est invariant par translation. Le problème, évidemment, c'est qu'on a tout perdu. Et ça, c'est l'angoisse quand on commence à calculer des invariants. C'est que certes, ça ne bouge pas, mais il n'y a plus rien. Et donc, tout le problème, ça va être de créer des choses qui ne bougent pas, mais qui ont en même temps beaucoup d'informations. Donc pour faire ça, on va commencer à s'intéresser où est l'information qu'on a perdue. L'information qu'on a perdue, c'est toute la variabilité de la fonction. Ah, mais la variabilité de la fonction, je peux l'extraire avec des petites ondelettes. Et pourquoi je vais l'extraire avec des petites ondelettes? Parce que les petites ondelettes, elles sont stables par déformation. Si vous déformez une petite ondelette, c'est toujours une petite ondelette, donc elles vont bien se comporter. Donc, vous extrayez les détails, et là, maintenant, vous avez des courbes qui oscillent, comme ceci, avec la partie réelle, partie imaginaire. Très bien, vous pouvez vous dire, maintenant, je vais moyenner. Le problème, c'est que si vous moyennez, vous avez zéro. Tant que vous restez linéaire, la seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir la moyenne. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est appliquer la fameuse non-linéarité. C'est-à-dire, on va tuer la phase. Donc là, on a une enveloppe qui est un peu plus régulière, maintenant. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut créer de l'invariance par translation. Parce que si maintenant vous prenez cette quantité et que vous la moyennez, vous avez la courbe rouge ici, elle n'est pas du tout zéro, et elle va être quasiment invariante par translation. Ça, ce n'est pas du tout une idée nouvelle, c'est essentiellement les techniques qui ont été utilisées jusque dans les années 90-2000. En traitement d'image, Yann y en a parlé, ça s'appelle SIFT, en traitement de la parole du Mel Spectrum, etc. Donc ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Le problème, pas assez d'informations. On perd trop d'informations. Pourquoi? Parce qu'on a moyenné à nouveau. Donc l'idée qu'on peut se dire, très bien, on a moyenné, pourquoi pas récupérer l'information qu'on a perdue quand on a moyenné? Et comment on récupère l'information qu'on a perdue quand on a moyenné? Eh bien, on va extraire les variations de cette enveloppe ici. Et on va les extraire en envoyant une nouvelle série d'ondelettes sur cette enveloppe. Et donc, je vais réappliquer un opérateur d'ondelettes. Et là, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Un réseau de convolutions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est la première transformée en ondelette où on a extrait à différentes échelles, donc avec la cascade dont parlait Yann, les différentes composantes à différentes échelles. Et puis, évidemment, comme on veut récupérer plus d'informations invariantes, on va reprendre ça et on va réappliquer des ondelettes aux ondelettes et on va essayer de tout redescendre en bas. Ici, c'est la zone où tout est invariante, invariant à une très grande échelle. Ça, ce n'est pas encore redescendu. Je vais réappliquer une transformée en ondelette, réappliquer une transformée en ondelette. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a appliqué notre premier opérateur qui a extrait les composantes dans différentes échelles. Et ensuite, on a regardé les interactions entre échelles et les re-interactions d'ordre supérieur, etc. Et à la fin, moyenné, donc tout ça est invariant. Donc ça, c'est un tout petit exemple simple de réseau de neurones convolutionnels. Et ce que je vous propose, c'est d'étudier les propriétés, de vous montrer qu'on peut déjà aller assez loin avec ça, et pourtant qu'on n'ira pas assez loin. C'est-à-dire que pour expliquer le genre de phénomène que Yann a montré, il va falloir aller bien au-delà, mais déjà, on va, à partir du moment où on a simplifié ça, être capable de comprendre mieux les maths. Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, ce sera le seul résultat mathématique, vraiment. On a pris l'information et l'on l'a éclatée, plein d'échelles différentes. C'est un peu comme une espèce d'accélérateur, c'est pour ça que j'appellerais ça ici une technique de scattering, de dispersion. On éclate l'information dans plein d'invariants différents qui sont tous dans ce grand vecteur. On peut montrer que l'énergie de ce vecteur, c'est l'énergie du signal d'origine, donc essentiellement, on n'a pas perdu d'énergie, mais surtout, on a linéarisé les déformations. C'est-à-dire que les déformations qui créent des phénomènes extraordinairement compliqués sur le signal d'origine, si on déforme le signal d'origine et maintenant qu'on regarde l'effet sur ce grand vecteur, eh bien la distance elle est de l'ordre de la taille de la déformation, ce qui veut dire que le phénomène est quasiment localement linéarisé et donc on va pouvoir appliquer des opérateurs linéaires ici. Donc je vais reprendre le premier exemple de Yann, à savoir la classification de chiffres. Qu'est-ce que Yann a montré? On applique un réseau convolutionnel, on obtient des classifications qui sont très bonnes, ça c'est le travail de Joanne Bruna. Ici on va faire la même chose. La seule différence c'est que ce réseau convolutionnel, il n'est pas appris, c'est simplement des ondelettes. Pourquoi je n'ai pas besoin de l'apprendre? Parce que les variabilités du problème, je les connais. Je connais les symétries, c'est le groupe de déformation, c'est le groupe de translation, donc je n'ai pas besoin d'apprendre, je mets des ondelettes dessus et ça suffit. Donc on fait ça. Et puis, on fait notre classification linéaire ici, et les taux de classification sont au meilleur niveau de l'état de l'art, c'est-à-dire au même niveau que ce que peuvent faire des réseaux de neurones convolutionnels. D'une certaine manière, ce qui est très beau dans ces réseaux de neurones convolutionnels, c'est qu'ils ont appris les filtres. Et effectivement, si on regarde les filtres de ces réseaux de neurones, on voit apparaître des petites ondelettes, notamment aux premières couches. Alors, ce problème est assez simple. Il est simple parce que les formes sont assez simples ici. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on s'attaque à des phénomènes beaucoup, beaucoup plus désordonnés, comme les problèmes de type physique statistique, des problèmes de texture? Donc là, ce sont des problèmes de classification à nouveau. Vous avez des textures, des exemples de textures, et vous voulez savoir, avec une nouvelle image, est-ce que ça appartient à la texture plutôt 1, 2, 3 ou 4, et il y a toutes sortes de bases de données. Donc, les outils standards de maths pour faire ça, c'est la transformée de Fourier, parce qu'on va modéliser ce qu'on appelle la puissance spectrale et classifier à partir de la puissance spectrale, ce qui marche pas mal, c'est des taux d'erreur de l'ordre de 1% sur ces bases de données. Quand on utilise ce type de réseau très non linéaire, les erreurs sont réduites, mais considérablement, par ici un facteur 5. Pourquoi? Parce que, je vais vous le montrer, on est capable de voir des phénomènes très non gaussiens que ne sont pas capables de récupérer un phénomène basé sur une transformée de Fourier. La représentation du processus, ça va être donné par tous ces coefficients qui sont moyennés. Qu'est-ce qui se passe quand on moyenne un phénomène aléatoire? Il y a un théorème central limite qui vous dit ça, ça va typiquement converger vers un phénomène gaussien. Et c'est quoi un phénomène gaussien? C'est essentiellement un phénomène linéaire, c'est-à-dire que tout est bien diffusé sur des espaces linéaires. Donc, quand on construit une représentation comme ça d'un processus, on va indirectement linéariser le phénomène. La question, c'est est-ce que quand vous avez linéarisé le phénomène, vous avez perdu toute l'information? Alors, je vais vous montrer des exemples. Ça, c'est une texture originale. Ça, c'est une modélisation avec un processus gaussien, donc quelque chose d'essentiellement linéaire. Et ça, ça marche très bien tant que le phénomène n'est pas structuré. Ça, c'est la représentation du processus, mais qui est linéaire dans le domaine de scattering, sur ces quelques coefficients, et on va en prendre beaucoup moins pour modéliser ça. Bon, là, ça donne à peu près la même chose. Maintenant, si vous avez un phénomène structuré, voilà la linéarisation gaussienne, c'est-à-dire le modèle gaussien, et là, vous voyez, vous perdez la structure. Si maintenant, vous vous placez dans ces coefficients produits par ces réseaux de convolution, parce que vous avez éclaté les échelles, vous avez les interactions entre tous les angles, vous êtes capable de restituer, c'est-à-dire le modèle linéaire, vous restitue quelque chose qui est très proche de la structuration géométrique du phénomène. Ça, ce sont des roches, voilà le modèle gaussien, et voilà ce que vous arrivez avec ces modèles linéaires dans ces domaines. Donc voilà un autre exemple, et voilà l'exemple de turbulence. Ça, c'est le modèle de Kolmogorov, c'est-à-dire le modèle gaussien de la turbulence, et voilà ce que vous arrivez à obtenir avec ces modèles qui sont à nouveau linéaires, mais dans ce monde de ces coefficients. Je vais vous montrer la même chose avec des sons. Ça, c'est le son d'origine. Ça, c'est le spectrogramme. Voilà le son gaussien. Vous avez perdu toute l'intermittence. Ça, c'est des réseaux d'ondelettes pour les sons, et vous obtenez ce genre de choses. Gaussien dans le temps. Et voilà. On peut faire ça avec un cocktail. Alors, un cocktail gaussien. En scattering, vous avez les phénomènes d'intermittence qui réapparaissent. Donc, ce genre de choses fonctionnent et pourtant n'ont pas du tout le niveau de sophistication de ces réseaux de neurones convolutionnels. Alors pourquoi ? Parce que ces réseaux de neurones convolutionnels ne se contentent pas de faire des convolutions, mais recombinent toutes les couches, tous les canaux. Et dans cette recombinaison, il y a un degré de flexibilité qui est très important et qui est tout à fait fondamental. Ce ne sont pas des simples convolutions avec des ondelettes, il y a une recombinaison de toutes ces couches, et la question, c'est à quoi ça sert, ces connexions, ces recombinaisons. Le point central, c'est que j'ai commencé avec les translations et les déformations, mais des symétries, il y en a des beaucoup plus compliquées. Il y en a des beaucoup plus compliquées, il va falloir les apprendre et il va falloir être capable de les implémenter, et c'est ce que ces connexions sont capables de faire. Alors peut-être la symétrie la plus simple qui vient après la translation, c'est la rotation. Si vous regardez dans le domaine des ondelettes, on a produit des images d'ondelettes à différentes rotations. Donc l'idée, c'est quoi ? Si vous voulez créer un invariant par rotation et linéariser l'effet de la rotation, vous voulez faire la même chose que pour la translation, c'est-à-dire vous allez faire une convolution, mais non pas spatiale, mais le long des rotations. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez connecter toutes les couches les unes entre les autres, et le filtre va s'adapter au type d'invariant, c'est-à-dire ici à la rotation. Alors je voudrais vous montrer ça pour un problème physique. En physique, c'est très important l'invariance par rotation parce qu'on veut par exemple avoir des phénomènes qui sont invariants par n'importe quel mouvement rigide. Par exemple, si vous voulez calculer l'énergie dans le cas, je le montrerai pour la physique quantique, d'un système, si le système se tourne, eh bien, l'énergie, typiquement, s'il est isolé, ne va pas changer. Donc, dans le cas d'un système quantique chimique, vous voulez calculer l'énergie d'une molécule. Donc, votre énergie, a priori, elle est invariante par rotation, par translation, et puis si vous avez une légère déformation, l'énergie va bouger, mais pas beaucoup. Donc, essentiellement, quand vous regardez ce problème, il n'est pas tellement différent du problème de traitement d'image. Comment ce qu'on fait en chimie quantique, les techniques numériques pour résoudre ça ? On essaye de calculer la densité électronique des électrons. On voit comment les électrons se placent entre les atomes, ça crée des liens chimiques. Et à partir de là, c'est les techniques de Comencham, on peut calculer l'énergie sous-jacente. Ça, ça vous demande de connaître la chimie quantique, l'équation de Schrödinger, et surtout de la résoudre, ce qui vous demande énormément de calculs parce que vous avez énormément de particules. Question naïve, supposez que vous ne connaissiez absolument pas de physique, tout ce que vous connaissez, c'est la position des charges, et vous remplacez cette position par des petits blobs, donc je crée une espèce d'image qui sont ces petits blobs, je ne connais absolument pas la nature des interactions, d'accord ? Et à partir de ça, j'aimerais calculer l'énergie, autrement dit, indirectement découvrir la chimie quantique. Est-ce que c'est possible ? Alors, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être d'utiliser des données, de faire un changement de variable et de calculer une simple régression linéaire, donc faire la même chose que ce qu'on a fait. Tout le problème, c'est qu'il va falloir trouver un changement de variable qui va être invariant par translation-rotation et stable par déformation. Qu'est-ce que les gens faisaient essentiellement jusqu'à maintenant ? Encore une fois, ils utilisaient la transformée de Fourier. Et ce que je vais vous montrer, c'est que si on fait ça avec ces réseaux convolutifs, on a des résultats qui sont beaucoup, beaucoup plus précis. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer l'énergie par régression linéaire sur les quantités qui décrivent le système. Et ces quantités, en termes physiques, on peut voir ça comme un potentiel équivalent. Autrement dit, on va essayer d'apprendre la physique. Alors, comment on fait ça ? On prend la molécule, on envoie des ondelettes dessus. Ça va vous donner le premier niveau de votre réseau suivant l'échelle et l'angle des ondelettes. Et ensuite, on prend ceci et on va le refaire interagir. Mais on ne va pas simplement le refaire interagir spatialement, mais aussi à travers les angles. Donc on va envoyer des ondelettes spatiales, mais maintenant on va aussi envoyer des ondelettes qui vont connecter les différentes imagettes, exactement comme dans un réseau de neurones convolutifs. On va sortir tout ça, tous les coefficients, qui sont des ondelettes le long de l'espace et de la rotation, et hop, on crée la régression linéaire. Alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si on fait ça avec Fourier, les erreurs sont de l'ordre de 14 kilocalories par mole, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes que ce qu'on est capable de faire avec un calcul numérique qui est de l'ordre de 1 kilocalorie. Les gens avaient mis au point des techniques avec des matrices de Coulomb. Si on applique essentiellement le même type de réseau parce qu'il y a le même type d'invariant qu'en traitement d'image, eh bien on tombe sur des erreurs qui deviennent très proches de l'erreur numérique qu'on fait le calcul, sans pour autant avoir aucune information sur les équations de Schrödinger. Donc c'est pour vous montrer que ces phénomènes sont vraiment très proches. Et ça, ce qu'on a calculé, c'est des termes d'interaction à travers les échelles. Alors, qu'en est-il des problèmes de classification d'images vraiment compliqués ? D'une certaine manière, ces problèmes sont beaucoup plus compliqués que ces problèmes de fine échelle de chimie quantique. Si vous appliquez le même genre de technique, ça c'est un travail qui a été fait par Eduardo Yalon, que vous appliquez un classificateur linéaire, eh bien vous faites nettement moins bien qu'un réseau de neurones qui a appris. L'erreur est à peu près trois fois plus grande. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous connaissez, c'est la géométrie des images. Mais vous n'avez pas appris la structuration interne des images, et là, il faut vraiment commencer à avoir des algorithmes d'apprentissage pour ça. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans une zone de mystère total dans ces réseaux de neurones. Yann a montré ces réseaux de neurones qui sont capables d'apprendre et faire de la synthèse et de linéariser des phénomènes qui ne sont pas de l'ordre de la translation, rotation, déformation, mais beaucoup plus compliqués, comme par exemple mettre des lunettes. Et il a montré cet exemple qui vient de ce très joli papier, où vous prenez un homme avec des lunettes, vous enlevez un homme, vous rajoutez une femme, vous obtenez quasiment une femme avec des lunettes. D'accord ? Si vous faites ça naïvement en prenant la même image et en faisant ça pixel par pixel, c'est-à-dire vous faites la soustraction de ces deux images, vous ajoutez celle-là, voilà ce que vous obtenez, c'est-à-dire rien du tout. D'accord ? Voilà l'exemple de la chambre à coucher qui est pour moi tout à fait spectaculaire. Vous avez là une première chambre à coucher, là une deuxième chambre à coucher qui sont représentées par deux vecteurs. Vous faites une interpolation linéaire, c'est-à-dire vous prenez vos deux points et vous prenez un point au milieu. Il n'y a aucune raison pour que le point au milieu soit une chambre à coucher, à moins que vous ayez linéarisé l'espace de toutes les chambres à coucher. Et effectivement, c'est ce qu'on observe, c'est que le point du milieu qui n'a rien à voir avec celle-là et celle-là, ça reste pourtant une chambre à coucher, c'est-à-dire que quelque part, vous avez linéarisé un phénomène extraordinairement complexe. Le groupe est évidemment beaucoup, beaucoup plus compliqué que le groupe de translation, rotation, etc. Et visiblement, ces structures ont la capacité d'apprendre ces groupes et de les linéariser. Alors, ce qui est très compliqué là-dedans, c'est que ces opérateurs LJ ici, ils ont beaucoup de rôles. D'un côté, comme on l'a vu, ils vont prendre ces transformations très longues linéaires et avec le rectificateur, ils vont linéariser le phénomène. En même temps, ils vont progressivement réduire la dimension parce que dès que vous avez linéarisé un phénomène et que vous n'en avez pas besoin, autant le jeter, donc vous pouvez commencer à réduire la dimension. Donc ça, ces opérateurs vont le faire. Et puis, il y a un phénomène de mémorisation. Il est clair que dans ce genre de problème, vous ne linéarisez pas n'importe quelle chambre à coucher. Vous en linéarisez certaines. Donc, d'une certaine manière, ces réseaux sont capables de mémoriser des structures qui sont particulièrement importantes. Et ce phénomène de linéarisation de ces structures importantes fait partie des caractéristiques qui permettent de s'assurer que si vous faites une erreur sur un invariant, vous n'allez pas prendre deux objets qui appartiennent à deux classes différentes et les collapser ensemble. Vous allez vous assurer qu'ils ont des représentations différentes, donc vous allez devoir mémoriser leur structure, et ça, ça fait partie des propriétés de ces réseaux qui sont très, très mal compris. Voilà, donc je voudrais m'arrêter sur ces quelques éléments de conclusion. D'abord, l'observation générale qui est le fait que ces réseaux de neurones convolutionnels ont véritablement des performances spectaculaires, et personnellement, je comprends très bien les reviewers. C'est-à-dire, quand on voit ça, si jamais on ne l'a pas déjà vu, on se dit c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, ça ne va pas marcher. En tout cas, quand on vient d'une culture qui n'est pas une culture initialement de réseaux de neurones, mais le fait est, c'est qu'effectivement, ça marche très bien, et ça marche très bien sur des gammes de problèmes qui sont extraordinairement divers. Alors, ceci étant, il y a beaucoup de liens avec d'autres sciences, je mentionnais la physique, évidemment la biologie, la vision et l'audition. Mais si on regarde plutôt du côté des sciences où il y a des modèles mathématiques, c'est-à-dire du côté de la physique, on voit qu'il y a ces phénomènes de symétrie, c'est-à-dire qu'on voit que ces systèmes ont apparemment la capacité d'apprendre des invariants, de les apprendre de façon hiérarchique et de les apprendre de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on a été capable de faire jusqu'à maintenant en mathématiques. Donc il y a pour moi des liens qui sont aussi très intéressants avec la physique des particules qui a été entièrement reconstruite selon le principe d'unification des forces à partir des invariants, c'est-à-dire des symétries du système. La physique statistique, je l'ai illustré. De façon générale, c'est un problème mathématique qui est complètement ouvert. Ce que je vous ai décrit là, ce sont des éléments qui indiquent que on peut commencer à attaquer le problème mathématiquement, on peut commencer à comprendre. Ceci étant, on n'a aucune idée d'une notion de complexité. Quels sont les problèmes qu'on est capable de résoudre avec ce genre d'architecture? Quels sont les problèmes qu'on ne peut pas résoudre parce qu'ils sont trop complexes? Je l'ai dit, en très grande dimension, il y a beaucoup trop de variables, donc les problèmes généraux de grande dimension, on ne pourra pas les résoudre. Pourquoi cela, on est capable de les résoudre? Quelle est la notion de régularité qui est sous-jacente? Est-ce qu'on peut mettre des théorèmes d'approximation, etc.? Tout ça sont des très beaux problèmes, donc je ne peux qu'encourager des jeunes mathématiciens de se pencher sur ce genre de questions. Merci.